le plateau qui parle. Jean Domeyo, auteur occitan, était invité samedi à la salle des fêtes de Tarnac dans le cadre des discussions autour du chantier du Goutaillou. Le thème de la conférence était « La cause occitane », la cause d'une langue et d'une culture vaincue par la République, mais qui survit malgré tout, témoin d'une façon de parler, de voir et de vivre, pas forcément totalement assimilée et normalisée. L'enregistrement a été réalisé par une personne du public que nous remercions, avec un petit enregistreur MP3 sur un format compressé, qui ne vous empêchera pas, j'espère, de suivre la présentation magistrale qui a duré plus de 2 heures et dont plusieurs extraits seront diffusés dans le plateau qui parle. Dans l'ouverture, ces 10 premières minutes, nous allons voyager grosso modo du 6e siècle au 12e siècle. Jean Domeyo retrace la répartition au Moyen-Âge des différents dialectes occitans issus du latin jusqu'à la guerre menée contre les hérétiques albigeois qui sonna la fin d'une potentielle unité politique occitane et qui était notamment pour les puissances du Nord un moyen d'avoir accès à la Méditerranée.
Alors cette langue, elle naît à peu près vers le 6 ou 7e siècle. Comme toutes les langues romanes, elles viennent du latin, d'un latin un peu qui va se transformer après l'occupation romaine et qui va devenir ces langues modernes, les langues romanes. Vous savez, il y a l'occitan, donc il y a l'italien, il y a l'égo-portugais, il y a le castillan, il y a le catalan, il y a le roumain, il y a le français, donc qui est sans doute, on va voir, la langue la moins romane d'entre les romanes, parce qu'elle a gardé d'autres influences. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu dans le sud de l'actuelle France cette langue particulière? Mais il y a plusieurs choses qui l'expliquent par rapport au français, pourquoi il y a cette distinction. Mais sans doute d'abord parce qu'il y a eu un peuplement préhistorique qui était différent au nord et au sud. Ensuite, il y a eu la présence de peuples voisins comme pour nous les Ligures, les Ibères et les Basques qu'il n'y avait pas au nord. Et il y a la situation particulière de l'Occitanie, c'est-à-dire sa structure orographique, c'est-à-dire les montagnes. On est un pays de montagnes, au nord ce sont des grandes plaines, ici c'est des montagnes. Les populations se fixent beaucoup plus et sont beaucoup plus stables dans les montagnes que dans les vallées, il y a moins de passages. Ça, c'est juste que ce sont les choses avant l'arrivée des Romains. Ensuite, l'occupation romaine au nord, elle a été beaucoup plus tardive qu'au sud. L'occupation romaine au sud est beaucoup plus ancienne. Et sans doute, comme étant beaucoup plus nombreuse, le fait d'une population romaine beaucoup plus populaire. Donc le latin qui s'est parlé au sud a été un parler populaire, ce qui fait que la langue a été très différente par la suite. Et au nord, c'est plutôt une occupation plus tardive et surtout avec des cadres de l'armée romaine et des clercs plutôt qu'avec les soldats de troupes. Donc deux latins différents qui se parlent. Et d'ailleurs, les linguistes ont calculé qu'il y avait à peu près 500 mots dans l'occitan qui appartiennent aussi à l'italien et à l'espagnol et qui ne sont pas en français et qui viennent directement du latin. Donc il y a plus grande latinisation. Il y a une chose particulière alors qui va différencier par contre des dialectes dont je vais parler au sein de l'Occitan, c'est qu'il y a une présence celte très faible dans le sud de l'Occitanie, alors que chez nous, dans le massif dit central maintenant, elle est assez forte. C'est sans doute ce qui va différencier le Limousin et l'Auvergnat, par exemple, des parlers plus méridionaux de l'Occitan. Alors ensuite, il y a quelque chose de fondamental à l'époque de la formation de la langue. C'est que nous sommes sous influence wisigothique et là-haut, c'est sous influence franque. Et c'est tout à fait différent parce que les francs sont des germains qui ne sont pas romanisés du tout, alors que les wisigoths sont germanisés, sont christianisés et sont hérétiques aussi. Ce qui est important peut-être pour ce qui va suivre, le pays de l'hérésie, c'est bien l'Occitanie, avec les Vaudois, avec les Cathares, etc. Or, on sait que les wisigoths étaient ariens, c'est-à-dire l'arianisme, c'est une hérésie qui vient du nom d'Arius, qui était un évêque qui a été excommunié par la suite, après grande discussion, qui veut qu'au sein de la Sainte Trinité, il disait, bon, pour ceux qui ont une petite culture religieuse chrétienne, la Sainte Trinité, donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont à égalité, ils sont la divinité parfaite. Et les Ariens, les Wisigoths, donc, c'était la religion d'État, hein, pensaient que le Père et le Saint-Esprit, certes, étaient vraiment Dieu, mais le Fils, comme il était devenu homme, il était un peu moins Dieu que les autres. Voilà. Il avait quand même beaucoup d'humanité en lui et un peu moins de déité. Ça a été une grande hérésie, un grand schisme au 3e, 4e siècle, et donc les Wisigoths nous ont amené ça. Et cet esprit d'hérésie probablement aussi. Voilà, alors on peut expliquer par tous ces facteurs le fait qu'il y ait deux langues, différentes. On sait que, par exemple, le germanique, un vrai germanique, se parlait au nord, donc dans la France historique, si on veut, jusqu'au IXe siècle, concurremment au roman. Alors qu'effectivement, nos pays étaient totalement dans le roman, dans cette langue qui était issue du latin. Alors, voilà pour la définition de la langue. Alors, cette langue, on sait qu'elle va prendre, donc elle va petit à petit se développer. Vers le XIe et XIIe siècle, elle va être une langue de haute civilisation par toute la poétique des troubadours. Hein. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait unique, parce qu'il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque, c'est-à-dire que cette langue qui vit sous forme dialectale, alors je vous énumère les dialectes, il y a les dialectes nord-occitans, vous avez le Limousin, qui se parle les deux tiers de la Dordogne, les trois départements du Limousin administratif, si on veut, en gros. Ensuite, vous avez l'Auvergnat, ensuite vous avez ce qu'on appelle le Vivaro-Alpin, qui va jusque dans les vallées occitanes d'Italie, c'est-à-dire il y a 300 000 Occitans en Italie, dans les vallées, hautes vallées du Piémont sont occitanes. Et les gens parlent un occitan qui est vraiment très proche du Limousin. Moi, j'y suis allé souvent, les gens croyaient que j'étais de la vallée voisine, hein, c'est tout à fait étonnant. Alors au sud, vous avez le Provençal, ensuite le Languedocien, qui est une grande face centrale qui va très loin, et le Gascon. Voilà, voilà l'ensemble dialectal occitan. Donc, il y avait déjà des dialectes au XIe siècle, des manières particulières. Toute langue vit sous forme dialectale s'il n'y a pas une académie, un pouvoir politique pour dire il faut parler comme ça et pas comme ça. C'est normal, il y a une diversité. Bon, la vie, c'est la diversité. Naturellement, les choses se diversifient. Elles ne vont pas vers l'unité comme ça. Au XIe siècle, quand naît la civilisation des troubadours, le premier troubadour, c'est Guillaume d'Aquitaine, qui est le duc de Poitiers. À l'époque, le Poitou était occitan. Après, on voit bien que la pénétration, c'est les vallées. On voit bien que là, c'est la vallée du Rhône, et puis là, ce sont les terres basses de l'Ouest. Donc, elle va passer au français. Ces dialectes existent, mais les troubadours, il y en a quelques centaines. Il nous reste 2800 chansons, 280 mélodies simplement, très peu, mais 2800 chansons, c'est énorme. Et il y a, je ne sais pas, peut-être 400 troubadours, une centaine de troubadours importants. Et notamment en Limousin, mais partout. Or, ces gens-là utilisent la même langue. C'est un cas sans doute unique dans l'histoire universelle d'une volonté, pas politique, d'unité de la langue, mais d'une volonté poétique, ce qui me plaît beaucoup plus. Ces gens-là se rencontrent et utilisent la même langue. Je veux dire, on ne voit pas de différence entre un troubadour provençal et un troubadour limousin ou gascon. C'est exactement la même langue, le même traitement de la langue. Or, les dialectes existent, on le sait, puisque par exemple, il y a un troubadour de Provence qui s'appelle Rimbaud de Vaqueiras, qui fait un descor, c'est une chanson particulière, je ne vais pas rentrer dans le... parce qu'il faudrait une conférence rien que sur la civilisation des troubadours, mais il a fait une chanson en plusieurs langues, ce qui est tout à fait étonnant. Il a fait un couplet en français, un couplet en occitan, on va dire standard, langue des troubadours, en galégo-portugais, en italien, et un couplet en gascon. Et ce gascon de son couplet, c'est pratiquement le gascon d'aujourd'hui, le dialecte d'aujourd'hui. Donc on sait que les dialectes étaient déjà très forts, mais on ne le voit pas généralement dans les chansons de troubadours. Donc ça, c'est étonnant. Donc il y a une unité de ce pays qui est divisé politiquement. Mais rien n'est uni dans l'ancienne Gaule à cette époque-là. Il y a effectivement un royaume de France dont dépendent nos principautés, comtés, duchés, etc. Il y a des grandes maisons en Occitanie, mais qui ne sont pas, il n'y a pas d'unité. Il n'y a jamais eu d'Occitanie, si vous voulez. Mais il y a eu une entité nationale occitane qui est passée près d'avoir quelque chose de plus constitué à certains moments, notamment à ce moment-là, où entre le comté de Provence, le duché d'Aquitaine dont nous faisions partie, et le comté de Toulouse, et le royaume d'Aragon. Donc, entre ces grandes familles, avec l'unité de la langue, à ce moment-là, au XIIe siècle, quelque chose est possible. Une Occitanie peut naître de ce qui est en germe, si on veut. Alors, ce qui va casser tout ça, ce qui va détruire cette civilisation, c'est la croisade contre les Albigeois. Sous prétexte d'hérésie cathare, donc les cathares sont des chrétiens, se reconnaissent comme des bons chrétiens, comme les seuls bons chrétiens. Donc ce sont des chrétiens, mais ce sont des chrétiens conçus comme hérétiques. Ce sont des dualistes, ils pensent que le monde a été plutôt fait par le diable, etc. Donc c'est un prétexte, cette hérésie, pour envahir le sud. Il faut bien savoir que pour les gens du nord, avoir accès à la Méditerranée, c'est avoir accès à tout. C'est pour ça que j'ai mis cette carte à l'envers par rapport... Le royaume de France, quand il est devenu république et qu'il a institué l'école pour tous, il a mis des grandes cartes dans les salles de classe partout, avec, bien sûr, toujours le nord en haut. Parce que quand vous regardez une carte, votre regard va toujours vers le haut. Et donc, il faut savoir où sont les bons exemples. C'est pour ça qu'il y a les pays du nord et du sud. Et que le sud est toujours dévalorisé par rapport au nord, partout. Partout. Être du sud, c'est moins bien que d'être du nord. Mais jusqu'au 15, 16e siècle, les cartes, les représentations cartographiques qu'on avait étaient comme ça, à l'envers, par rapport à aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui était important? C'était la Méditerranée. Jusqu'à la découverte de l'Amérique, ce qui compte, c'est la Méditerranée. C'est là qu'est la richesse, c'est là que sont les échanges. Et donc, on peut imaginer, et c'est vrai que c'est bouleversant, quand on voit les choses comme ça, on est complètement désorienté, on ne sait plus où on en est. Alors bien sûr, j'en rajoute un peu en mettant l'Occitanie seule, définie, et en marquant les noms des pays comme ça. Donc voilà, il faut avoir accès à la Méditerranée. C'est ça qui va justifier cette croisade contre les Albigeois. Alors, le roi de France va en être, les princes du Nord vont s'y mettre petit à petit, sous impulsion papale, hein, c'est vraiment le Vatican qui mène ça. Et il va y avoir cette croisade entre 1209 et 1212, et ça va être une victoire écrasante du nord sur le sud, et des destructions sans nom, en fait. Toute la population de Béziers va être passée par les armes, en fait, on sait, ça a été quelque chose, c'est un génocide, véritablement. On peut parler de génocide. On se souvient de ce mot célèbre, du légat du pape à Béziers, mais comment reconnaître les hérétiques des autres? Tuer les douze, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà, c'est ça. Et la parole magnifique des gens de Béziers, des consuls, donc des conseillers municipaux de Béziers, qui l'armée franco-papale arrivant et leur disant « Livrez-nous les hérétiques et vous serez saufs », disant « On ne livre personne de chez nous ». Or, il y avait des juifs et tout ça. Donc, il faudrait aussi se remettre, parce que les valeurs occitanes, c'est comme ça. À cette époque-là, il y avait une grande tolérance dans ce pays. Il y avait des discussions, justement, avant cette croisade, entre les Vaudois, les catholiques bontains et les cathares. Et il y avait une présence juive importante, qui était très bien tolérée. La Kabbale est née à Fumel, en Languedoc. Je veux dire, toute la réflexion juive sur sa culture est née en Occitanie à cette époque-là. C'est un lieu d'échange aussi où la culture arabe circule beaucoup plus qu'au nord, etc. C'est un lieu d'échange de par sa situation. C'est moins vrai pour nous ici dans nos montagnes. Mais en tout cas, tout le sud de l'Occitanie participe de ça. Alors, donc, l'Occitanie potentielle est vaincue, l'idée occitane et la civilisation.
Difficile d'interrompre Jean Domeyo en pleine conférence. C'était la première partie de l'enregistrement de cet auteur occitan qui était présent samedi à la salle des fêtes de Tarnac en Corrèze pour une conférence intitulée « La cause occitane ». Nous sommes de retour en 2014 et les conseillers municipaux de Béziers sont maintenant, depuis hier, en majorité du Front National. À demain, 8h30, 12h10 et 17h30 pour un nouveau numéro du Plateau qui parle.